Bonjour à tous et merci d'être fidèles à l'émission Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche sur RMJ. Cette aventure, Claude Perronnet l'a commencée voici 6 ans, en septembre 2015. Cela représente 292 émissions et 184 chroniques. Claude Perronnet qui nous a promis d'atteindre la 200e chronique. Nous allons faire une petite pause et nous reprendrons le cours normal des émissions produites par Claude Perronnet à compter du 16 octobre 2021. En attendant, et chaque week-end, nous vous proposons la rediffusion des premières émissions, celles de septembre et octobre 2015.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ces grandes et petites histoires de la Basse Marche. Aujourd'hui, nous allons vous parler des colporteurs et des marchands ambulants qui parcouraient nos campagnes de Basse Marche et du nord de la Haute-Vienne au siècle dernier. Aujourd'hui, nos campagnes de Basse Marche et du Haut-Limousin nous apparaissent plutôt vides, silencieuses, voire même un peu tristes. Or, pendant longtemps, et encore dans la plus grande partie du siècle précédent, elles furent une véritable ruche quasi surpeuplée et, de plus, visitée en permanence par une multitude de commerçants et d'artisans. Il y a ceux que l'on voit régulièrement, chaque jour, comme le facteur rural, ou chaque semaine comme l'épicier, le caïphat, le boulanger, ou selon les saisons comme le tailleur, la couturière, le marchand de vin, le rétameur, le rémouleur, le matelassier, le ramoneur ou encore le chaisier, les mendiants, les colporteurs. Parmi ces ambulants, certains n'hésitent pas à se rendre dans les petits villages, dans les petits hameaux, voire même dans les fermes isolées. D'autres ne se présentent que dans les bourgs ou seulement les jours de foire, comme les cirques ou les arracheurs de dents. Nous allons vous parler de ces colporteurs et de ces ambulants en nous appuyant sur des textes des écrivains de chez nous et aujourd'hui de Paul Lavergne, l'écrivain de Mézières-sur-Issoire, de Louis Peignot, l'auteur de Roussac, de Gérard Lanfranchi, l'écrivain de Villefavard, et de Jean Leur, l'écrivain de Bellac.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Dans son roman « L'enfant sous les charmes », Paul Lavergne nous parle ainsi du colporteur arrivé à Mézières-sur-Issoire. « Le colporteur est au bureau, Miette. J'ai pensé que peut-être vous aimeriez le voir. »« Oh, je vous remercie, madame, » dit Miette. « J'ai justement besoin de lunettes. » Dans la salle du bureau de tabac, le colporteur a ouvert son coffre. Il a étalé sur la table un fouillis d'objets bariolés, des châles, des rubans, des foulards, des capelines, et dans des cartonnages qui gardent leurs secrets, de précieux cadeaux qu'on ne voit pas encore. Miette a tout de suite jeté son dévolu sur un bonnet de nuit en solide coton pour Philippe, son mari. Elle le palpe, l'étire, l'examine sous toutes ses faces, puis, au moment de l'acheter, elle le pose. Les commères du village entourent le marchand. Ils vendent ses articles, les déplissent et les font miroiter, et ce n'est pas le bagout qui lui manque. Elles sont charmées, immobiles sous le flot de son boniment. Le colporteur a ouvert les petites boîtes de carton. Voici les bagues. Les femmes s'avancent toutes à la fois en s'accrochant les unes aux autres. Le silence s'est établi soudain. Les bagues se vantent elles-mêmes par leur éclat, leur forme, leur matière. Elles sont en laiton, en doublé, les plus belles en argent, avec de fausses pierres enchâssées dans leurs griffes. Les jeunes filles, surtout, restent saisies. Le colporteur découvre une autre boîte et annonce les boucles d'oreilles. Des mains se tendent, les doigts fouillent ses menus bijoux. « Ah, voici une paire qui tirait bien, Nadon, » dit quelqu'un. Le colporteur paraît indifférent. Il sait qu'il faut donner du temps à la convoitise. Quelques-unes qui n'ont pas d'argent s'en retournent et les autres sont là, ne pouvant apaiser leurs désirs et ne pouvant non plus se résoudre aux emplettes. Ça fait des sommes, hein ? Et l'argent, lui, ne vient pas vite. Le marchand les laisse à leur perplexité. Une dernière fois, il fait chatoyer les châles de cachemire et les foulards, puis il les replie avec soin dans les mêmes raies. « Donnez-moi le châle rouge !» dit alors la grande Madeluche qui est connue pour sa coquetterie. À présent, le colporteur rentre les boucles d'oreilles, les broches et les bagues. Elles produisent un bruit menu en se heurtant dans sa main. Cric, crac. Les petites boîtes sont refermées. Pour être bien sûr qu'elles ne s'ouvriront pas, il les entoure d'un élastique. Cric, crac. Elles sont dans le coffre de bois. « Ah, je prendrai les boucles !» soupire la Nanon. « Voici l'argent, tenez !» Sans se fâcher le moins du monde, sans le moindre haussement d'épaule, le colporteur cherche les boucles. Tous ces repliements de bagages font partie de son commerce et l'homme est bon diplomate. Il sait l'utilité d'une petite mise en scène. « Maintenant, dit-il en s'adressant à Miette, qu'avez-vous décidé au sujet du bonnet, petite mère ?»«
Oh, le coton ne vaut rien !» dit Miette. « Le coton ne vaut rien !»
s'écrie le colporteur, « allez le dire à d'autres, des bonnets que je vais chercher moi-même à Troyes, en Champagne, et que je traîne tout ce temps sur mon dos !» Elle songe qu'en reprisant encore les bonnets de Philippe, ils dureront un hiver de plus. Ce sera autant d'économies pour acquérir le champ de la Chaume.
« C'est des lunettes que j'aurais voulu, » dit-elle.
« Quel numéro ?»« Elle ne sait pas, mais elle a apporté les siennes. » Il lui en trouve une paire dont elle glisse les pointes derrière ses oreilles avec un rire de contentement.
« Oh, je n'y vois pas mieux que dans mes vieilles, hein ?» dit-elle un peu déçue.
« Ah ben alors, il faut un autre numéro. »
Il le cherche et elle essaye de nouveau.
« Oh, ça tourne à me rendre folle là-dedans, » dit-elle. Elle pose les lunettes sur la table du bureau. Le colporteur n'a aucun espoir de vendre. Il commence à empaqueter.
« Oh, je garderai mes vieilles lunettes, » dit la grand-mère, « je les changerai au printemps. »«
Ça vous regarde, » répond l'homme d'une voix qui ne révèle pas sa déception. « On va s'en aller à présent. »
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons quitter le colporteur de Mézières-sur-Issoire pour rejoindre celui de la zone de Nantia. C'est d'ailleurs peut-être le même dont nous parle Louis Peignot dans Bergère, éternelle bergère. Les colporteurs, nous dit-il, avaient fort à faire pour placer leurs pacotilles au village. Une bonne femme discutait une demi-journée pour obtenir un rabais de 2 ou 3 sous. À la fin, le marchand, roublard et parfait comédien, finissait par céder en criant comme si on l'écorchait vif, en jurant ses grands dieux qu'il mangeait de l'argent, qu'on ne le reverrait plus par ici. Mais l'an d'après, il réapparaissait, sa haute boîte à tiroirs sur les épaules, et la même comédie se jouait, renouvelée de porte en porte. Quelques maisons plus avenantes que les autres avaient la bonne fortune d'offrir le couvert et le gîte pour la nuit aux marchands ambulants. Il payait son écho en marchandises, quelques mouchoirs, des peignes, un beau foulard qui vous caressait doucement le cou. Alors, pour l'hôtesse coquette mais économe, pas besoin de débourser. Dans la région de Nantia et de Roussac, on trouve aussi ce couple de colporteurs, Minot et Jeanne. Un couple original parcourait aussi nos villages. Minot et sa femme Jeanne, les derniers colporteurs du siècle, passaient régulièrement pour vendre des lunettes et des chapelets. Ophtalmologiste, oculiste, opticien, Minot était tout cela à la fois. Et plus d'une maison garde encore quelques vieilles étuis de bois où dorment les lunettes des grands-mères.
Le colporteur qui vend des épinglettes, des savonnettes et du papier à beurre, et des images où l'on voit des gendarmes à grand bicorne à la moustache en fleurs, et Cendrillon et la ronde des fées. La fée noire et blanche et le grillon qui vit toujours caché. Reviendra-t-il au début du printemps? Et l'hirondelle reviendra-t-elle? Reviendra-t-il? Car je l'attends de tout mon cœur, le colporteur.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Le colporteur dont nous parlent Paul Lavergne et Louis Peignot était un marchand ambulant qui portait à col, c'est-à-dire sur le col, sur le cou, sur le dos. Il portait sa hotte de marchandises, que l'on appelait aussi une balle ou un ballot, d'où l'autre nom du colporteur, le porte-balle. Ces colporteurs sont libraires, merciers, pharmaciens, grainetiers, bijoutiers. Parfois, ils percent les oreilles des jeunes filles. Ils sont aussi herboristes, quincailliers, rouainiers, c'est-à-dire vendeurs de tissus, de mouchoirs, de châles, de tabliers, de bonnets, de pèlerines. Et ils sont bien sûr lunetiers. À l'époque où la plus grande partie des gens vit à la campagne, où les agriculteurs sont dispersés dans les villages, les hameaux, les fermes isolées, où les boutiques sont à la ville qui est fort loin, où les routes sont étroites, les chemins défoncés, où il faut la plupart du temps aller à pied, les colporteurs sont indispensables pour apporter les produits que les habitants des campagnes ne peuvent fabriquer eux-mêmes. Les colporteurs se feront de plus en plus rares après la guerre de 1914-1918. Cependant, on en verra encore en basse marche après la Seconde Guerre mondiale. Ils utilisent alors une bicyclette pour transporter leurs produits.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Et Louis Peignot, dans son ouvrage « Bergère, éternelle bergère », nous parle des derniers colporteurs de la basse marche. Les anciens prenaient leur revanche quand passait le colporteur. On le voyait de moins en moins suivant apparaître avec sa haute boîte à tiroirs sur les épaules. Il était l'imagier et l'opticien des campagnes. C'est à lui que les vieilles femmes achetaient leurs lunettes. Les hommes ne s'en servaient pas. À quoi bon des lunettes puisqu'ils ne cousaient ni ne lisaient? Le colporteur vendait de moins en moins des images de piété ou de légende. La vie du juif errant, l'aventure de Geneviève de Brabant, les statuettes de la Vierge, des chapelets, des portraits des souverains du monde. En ces temps d'instruction déjà répandus, les lectures restaient rares au village. Chaque année pourtant, vers le 1er janvier, deux ou trois brochures nouvelles venaient rejoindre sur la planche, entre la cheminée et la pendule, les vieux livres aux pages racornies et jaunies par la fumée. Depuis combien de lustres étaient-ils là, ces manuels du bon bouvier, avec leurs remèdes infaillibles pour les maladies des bêtes à cornes et à laine, cette nouvelle médecine sans médecin, et aussi ces Mathieu de la Drôme si précieux pour connaître le temps des années à l'avance? Depuis peu, d'ailleurs, Mathieu de la Drôme cédait la place à l'almanach illustré du Petit Journal, qui vous prédisait non seulement le temps, mais encore la bonne aventure, et qui avait des images à chaque page. C'est à la ville, au dépôt de journaux, que les garçons l'achetaient, tandis que les filles rapportaient le roman à 13 sous qu'elles cachaient dans leur armoire. Le colporteur ne faisait plus d'affaires qu'avec quelques vieux rongés de douleur. Il leur vendait avec la médecine naturelle par les herbes, les plantes et les tisanes, l'espoir de retrouver leurs jambes gaillardes de 20 ans. Ils ne réussissaient plus, comme autrefois, à placer en grand mystère à quelques valets simples d'esprit ces redoutables grimoires de sorcellerie, les secrets admirables du grand Albert ou les secrets du petit Albert, pour se faire aimer de la fille de leur maître et l'épouser. Ces affaires finirent par devenir si mauvaises qu'on ne le revit plus au village.
Je suis un colporteur, je vais me balader à pied, par les grandes routes, par les petits sentiers. Pieds, paire de bottes, un sac sur le dos. Quand je traverse les villages, on me dit salut Jeannot. Les montagnes ne me font pas peur, je grimpe par les cols. Ce n'est pas pour vendre des tapis, des casseroles. Je vends des petits instruments de toutes les couleurs. Ma camelote est pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur. J'ai dormi dans une
une gorge près de Saint-Quentin. Une nuit épouvantable, il faisait un temps de chien. Les trous dans le toit laissaient passer la pluie. Et les rats, les chats, les chauves-souris me faisaient guili-guili. Oh là là, qui viennent se réveiller là-bas dans la maison. C'est la patronne et sa fille qui sautent dans leurs jupons. Je leur dis coucou, il ne faut pas avoir peur. Ma camelote est pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur. Permettez, je vais vider mon sac à dos. Je ne vends pas de guitare, bien sûr pas de piano. Approchez, approchez pour écouter mon bric-à-brac. J'ai les choses qui font la 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 et qui font tic-tac. Écoutez le son de mes crotales, de ma planche à musique, ma flûte à pisto et mon trio harmonique. Merci, au revoir mesdames, je vous souhaite du bonheur. Avec ma camelot pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur. Sac, me voilà parti, emportant tout mon bric-à-brac. Les trous dans mes bottes font passer mes orteils à haut. Les trous dans les nuages font passer un peu de soleil. Et de la parade, 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 de la de la parade, de la parade, de la parade, de la parade, de la. Je suis un colporteur, je vais me balader à pied par les grandes routes, par les petits sentiers. Paire de bottes, un sac sur le dos. Quand je traverse les villages, on me dit salut Jeannot. Les montagnes ne me font pas peur, je grimpe par les cols. Ce n'est pas pour vendre des tapis, des casseroles. Je vends des petits instruments de toutes les couleurs. Ma camelote est pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur. Ma camelote est pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur. Ma camelote est pleine de notes, je suis Jeannot le colporteur.
D'autres marchands ambulants parcourent nos campagnes, et parmi ceux-ci, le plus connu est forcément l'épicier. Voici ce que nous en dit Louis Peignot, toujours dans Bergère, éternelle bergère.
Petite et grande histoire de la basse marche.
En arrivant dans la cour, elle aperçut un homme qui l'attendait debout à côté d'une petite charrette attelée d'un âne. C'était Jean Tichou, l'épicier de Saint-Pardoux, qui, depuis peu, faisait des tournées dans les villages. Oh, il n'aimait pas avoir affaire aux vieilles femmes qui, à les entendre, n'avaient jamais besoin de rien. Les jeunes étaient pour lui de meilleures clientes. Les anciens appréciaient certes les produits que l'épicier répandait dans les campagnes, mais ils les trouvaient toujours trop chers et ils n'aimaient guère voir arriver ces pilleurs de porte-monnaie. La fête patronale de Saint-Pardoux approchait, et comme tous les ans, Françoise et son mari avaient convié leurs parents des deux côtés, oncles, tantes, cousins et cousines qui venaient pour les processions et la balade. Chaque passage de l'épicier était pour la grand-mère l'occasion de gémir devant tous ces paquets qu'il laissait sur la table. De son temps, la soupe, les châtaignes et le salé suffisaient à tout. Françoise ne s'en contentait pas. Il lui fallait pour la frérie du vermicelle et du macaroni. Des noms bien difficiles à prononcer pour une bouche édentée de vieille femme, mais des soupes bien faciles à avaler. Une petite marmite de fonte était toujours pleine de café odorant que la grand-mère aimait bien, mais qu'elle aurait apprécié plus encore s'il n'avait pas fallu l'acheter. L'épicier tentateur avait même réussi à vendre à Françoise une belle boîte de fer ornée de fleurs et pleine de biscuits à la cuillère. Elle collectionnait les boîtes vides qui s'alignaient sur le manteau de la cheminée. Dans l'ouvrage « Villefavard en Limousin », Gérard Lanfranchi nous parle lui aussi des marchands ambulants. Il nous dit « Parmi les marchands ambulants, il faut citer aussi le petit bazar. L'homme vendait de la mercerie, des bonbons, et dans les années 1925, il venait poussant une charrette. » Et il ajoute « Il y a aussi ce que l'on appelle un caïfa, c'était Monsieur Lacou de Villefavard. Son successeur caïfa démarra avec une charrette, puis il y attela un chien et enfin un cheval. Son affaire prospérant, il acheta une voiture car il venait d'Udora et passait tous les 8 jours, puis tous les 15 jours. C'était Monsieur Séru. Il déjeunait régulièrement chez Dubo à Villefavard, et ce durant près de 42 ans. Il faut dire que l'histoire du planteur Caïfa est une histoire singulière. quand j'étais enfant, en vacances chez ma grand-mère dans un hameau de la commune de Saint-Sulpice-les-Feuilles, nous attendions chaque semaine le passage d'un épicier un peu spécial que nous appelions le Caïfa. Le planteur Caïfa était né dans les années 1880, quand un petit épicier parisien avait acheté la cargaison de café d'un bateau qui avait sombré. Il fit sécher les grains trempés qu'il torréfia et conditionna en petits sacs qu'il fit vendre par des colporteurs. Quand la cargaison fut vendue, il fit venir du café de Caïfa en Amérique du Sud. Il le vendit de la même façon par des colporteurs. À Paris, il s'adressa à la clientèle du petit personnel, les bonnes, les gens de maison des demeures bourgeoises, qu'il fidélisa en leur offrant de petits cadeaux comme une tasse en faïence suite à l'achat de 5 paquets de café, par exemple. Il créa des agences et des succursales partout en France. Ses colporteurs utilisaient des carrioles à main, parfois tirées par des chiens, par des bicyclettes, des triporteurs, puis des carrioles à cheval et enfin de petites camionnettes. Au début, il ne vendait que du café, puis on ajouta du tapioca, du sucre, du cacao, des gâteaux secs, des pâtes, du chocolat, des boîtes de sardines, de l'amidon, du fil, des boutons, des aiguilles, des produits d'entretien, comme les autres épiciers. L'aventure du Caïfa se termina dans les années 1960. Bien sûr, il est beaucoup d'autres ambulants qui parcourent nos campagnes. Voici trois exemples tirés toujours des romans de Louis Pégnot. Par exemple, le marchand de vin. Après l'épicier arriva le marchand de vin. Encore un que les anciens n'avaient jamais vu au village et qui emportait pour sa part beaucoup d'argent. Le cidre restait la boisson des jours de labeur, mais cédait la place au vin les jours de fête. Dans l'après-midi, nous dit Louis Pégnot, un autre personnage apparut, qui ameuta tous les chiens. Il ne venait que deux fois par semaine, mais c'était alors un beau vacarme. Dès qu'au détour du chemin, il montrait son képi à cocarde, sa blouse bleue et sa lourde canne ferrée, les chiens se précipitaient en hurlant. Pourquoi détestait-il à ce point le facteur ? Bien sûr, il rentrait chez vous en coup de vent, comme chez lui, mais aussi il avait plus d'une fois caressé de son pesant bâton les côtes du gardien des lieux. Encore un que les anciens n'avaient jamais vu, qui ne savait pas lire. Les jeunes, à présent, recevaient deux fois par semaine un journal. Au premier de l'an venaient les cartes postales avec les souhaits de bonne année, les catalogues de la Samaritaine ou du Bon Marché. Et dans la cuisine, à côté de la cheminée, les calendriers s'amoncelaient d'année en année et jaunissaient sous la poussière et la fumée. Encore un autre ambulant qui se mit à fréquenter la campagne. Tous les samedis, du fond des prés, en bordure de la route, montait l'appel d'une trompe. Le boulanger annonçait sa présence aux femmes, qui s'en allaient vers lui avec leurs baguettes de bois pour faire cocher les pains que l'on ne payait pas en argent, mais avec du froment. Ses affaires n'étaient prospères qu'à la veille des jours de fête, car la miche blanche n'arrivait pas à supplanter la tourte de pain bis et la galette de blé noir.
Mettez vos bras en liance, mettez vos bras en liance, faites un petit saut, l'alouette, l'alouette, faites un petit saut, l'alouette, comme il faut. Mettez-nous trois pas de danse, mettez-nous trois pas de danse, faites un petit saut, l'alouette, l'alouette, faites un petit saut, l'alouette, comme il faut. Mettez-nous la révérence, mettez-nous la révérence, faites un petit son, l'alouette, l'alouette, faites un petit son, l'alouette, comme il faut. L'alouette est sur la branche, l'alouette est sur la branche, faites un petit son, l'alouette, l'alouette,
il est d'autres ambulants qui ne se déplacent que dans les gros bourgs et souvent seulement les jours de foire, comme les forains, comme les cirques, comme les arracheurs de dents. Nous en parlerons lors de notre prochaine chronique. Nous allons terminer avec une corporation d'ambulants qui, au début du siècle dernier, constitue un véritable métier. Les payaraux, les cherche-pains, les mendiants qui hantent en permanence les campagnes de basse marche.
Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie avec petites et grandes histoires de la basse marche.
C'est d'abord Louis Peignot qui nous en parle. Seul passait encore le payaraud à la recherche de chiffons et des peaux de lapin et le dernier vieux mendiant de la contrée. Celui-ci avait son rythme saisonnier. L'hiver le ramenait en quête de grandes écuelles de soupe fumante et des tranches de pain bitaillées à même le chanteau. Françoise les lui graissait d'un morceau de salé. Le bonhomme s'installait au coin de la cheminée, son bâton de houe entre les jambes. Il ne partait pas tant que la maîtresse de maison n'était pas descendue quérir à la cave un pichet de cidre dont il était gourmand. Elle le supportait mal auprès de la marmite et de la poêle tellement il répandait une odeur nauséabonde. Après s'être restauré, il demandait invariablement quelques vieilles nippes, tout heureux quand il héritait d'un vieux paletot qu'il endossait aussitôt par-dessus les trois ou quatre autres qui le couvraient de leurs lambeaux. Des puces avaient moucheté son cou, ridé et tanné. Il était si peu agréable à approcher que les hommes, moins compatissants que les femmes, ne le supportaient pas auprès de la table à l'heure des repas. Ils l'envoyaient coucher dans le foin. Le lendemain, pourvu d'un quignon de pain, il repartait vers d'autres hameaux. Un hiver, on ne le revit pas. La mort l'avait pris dans la neige au revers d'un fossé.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Dans un ouvrage plus récent, Un parfum de récré, Jean Leure, le romancier de Bellac, nous parle aussi du chiffonnier qui sillonne les rues de la ville. La ville ne produit pas beaucoup de déchets. On récupère presque tout. À l'exemple du chiffonnier qui passe dans les rues en poussant son long cri familier « Peau de lapin, peau, 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 peau de lapin !» Il est rare que dans le mois écoulé, nous n'ayons pas mangé un ou plusieurs lapins dont les fourrures retournées, bourrées de papier journal, sèches, pendues à une poutre du cellier. Le marchand glisse dans son sac de toile de jute les peaux raides que je lui apporte, me remet une pièce de 100 sous ou un billet de 10 francs selon la qualité de la marchandise, jette son fardeau sur l'épaule et repart, en poussant ses puissants et traînants appels qui, en s'éloignant, finissent par s'estomper peu à peu. « Peau de lapin, peau, 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 peau. »
Le cours des sages, la grande douce et la trajectoire de la course instantanée de velours, même si ne sert à rien.
Voilà. Merci à tous ceux qui nous ont suivis pour cette première chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. Nous l'avons fait en compagnie de Paul Lavergne, de Louis Peignot, de Gérard Lanfranchi, de Jean Leur, et sur le plan musical, des groupes Maluzerne, Grand-mère et Soufflet, Noir Désir, des chanteurs Steve Waring et Jacques Douai. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de nos petites et grandes histoires de la basse marche. Nous vous parlerons alors des cirques ambulants, des foires, des arracheurs de dents. Très bonne semaine à vous tous et à bientôt.
Les petites histoires font les grandes histoires. Tous les week-ends, Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région. La basse marche a plein d'histoires à raconter. Écoutez-les les samedis à 11h et dimanche à 13h avec Petites et Grandes Histoires de la basse marche. Thank you.